France Culture.
Hildegarde de Bingen, génie cosmique. Une grande traversée d'Aurélie Fez et Benjamin Hu. Épisode 1, une enfance hors norme. C'était notre monde il y a 1000 ans. C'était l'Europe à la fin du XIe siècle, un Moyen-Âge chrétien en ébullition. Alors qu'on se demande si demain le soleil va encore se lever, à l'aube de l'année 1098, une petite fille voit le jour au bord du Rhin, dans le château de Bermersheim. Elle s'appelle Hildegarde, Hildegarde de Bingen, et c'est une enfant hors norme au destin extraordinaire. Elle est la dixième d'une famille de la noblesse germanique. L'histoire raconte que la petite a eu ses premières visions à l'âge de 3 ans. Ses parents, qui savent qu'elle est étrange, placent la jeune fille au monastère du Disibodenberg. Perchée dans les collines de la campagne rhénane, elle va vivre recluse aux côtés de son éducatrice, Jutta, une mère abbesse qui pratique l'ascèse, la pénitence et la mortification. Après plus de 30 ans d'enfermement et de visions enflammées, elle va enfin partir pour s'émanciper et révéler au grand jour ce qu'elle voit. Elle écrit et dessine tout, ses visions, sa pensée, ses recherches sur les plantes et son répertoire musical. C'est l'histoire d'une bénédictine audacieuse, déterminée et fragile, surgie il y a 1000 ans du fin fond de la Rhénanie, qui est devenue une légende vivante.
Une femme surdouée, exceptionnelle, de créativité iconographico-théologique.
Bienveillante, énergique, savante.
D'une part, elle a ses visions qui sont exceptionnelles, mais ça va bien plus loin. C'est une musicienne hors pair, enfin, c'était un cerveau exceptionnel, un peu dans la veine de Léonard de Vinci quelques siècles avant.
Le nom Hildegarde, ça évoque immédiatement et le Moyen-Âge, et une forme d'exotisme en fait, parce que genre, personne n'appelle son enfant Hildegarde, pas pour l'instant en tout cas.
J'imagine quelqu'un qui dort peu, quelqu'un qui se lève tôt, qui va dans son monastère, qui s'assoit sur un banc, qui tous les jours regarde la même herbe, la même chose, la même rosée.
Je l'ai déjà imaginée grande, je l'ai imaginée petite aussi, plutôt pâle, et je crois des grands yeux qui ne fuient pas le contact avec les autres.
J'ai pas la même vision, à la fin de sa vie, je vois une petite vieille un peu ratatinée, mais qui se bat comme un lion. C'est pas exclu non plus que Hildegarde ait eu un beau, noble visage. On ne devient pas forcément nonne parce qu'on est moche.
On l'imagine comme une femme assez grande, sans doute blonde, très impérieuse. Non pas autoritaire, mais pourvue d'une grande autorité.
Sa vie a-t-elle été guidée par ses visions, comme le dit l'Église ? On peut aussi parler d'inspiration, d'intelligence, de créativité. Comme Léonard de Vinci, elle est sans doute l'incarnation du génie féminin, détentrice d'une œuvre artistique et scientifique qui dépasse largement le cadre des religions. Aujourd'hui, sur fond de crise géopolitique, écologique et existentielle, Hildegarde serait-elle notre sauveuse ? Symbole de la sororité et des officines médicinales, écolo avant l'heure et star médiévale, l'œuvre d'Hildegarde peut-elle nous délivrer du mal ?
Hildegarde de Bingen naît en 1098.
Laurence Moulinier, historienne spécialiste d'Hildegarde.
Ses parents s'appellent Hildebert et Mechthild, elle naît dans le château de Bermersheim, dans une famille de la moyenne noblesse, mais ce qui explique par la suite qu'elle ait un certain nombre d'alliances, de réseaux, d'appuis. Elle ne vient pas de n'importe quelle souche sociale. Elle est, nous dit-on, la dixième enfant de ce couple, et c'est à ce titre qu'elle va être par la suite offerte, donnée à l'Église, puisque la dixième, la dîme, le 10%, c'est ce qu'on offre en général à l'Église. C'est peut-être pas la seule raison pour laquelle elle a été donnée à l'Église, puisque très petite, visiblement, elle a des dons, des comportements hors du commun. Sa vita postérieure nous dit qu'elle a des visions depuis l'âge de 3 ans. Il est possible aussi donc qu'elle ait été offerte à Dieu pour son caractère un petit peu atypique, tout à fait hors norme. aux yeux de ses parents déjà. On s'accorde à dire qu'elle a les visions à l'âge de 3 ans. Il y a un certain nombre de textes qui convergent vers cela. 3, 5, bon. Mais on va admettre 3 ans.
Dans la troisième année de mon âge, j'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée. Mais à cause de mon enfance, je n'ai rien pu en dire.
On n'a pas de témoignage nous disant que les parents avaient remarqué le don de visionnaire de la petite fille. De toute façon, elle ne s'en ouvre que très très tard, en fait. Hein. Mais peut-être avait-elle déjà des attitudes, des moments d'introspection qui faisaient que ses parents avaient remarqué quand même qu'ils avaient une petite fille douée, différemment des autres enfants. On ne va pas dire que le fait d'avoir des visions est courant, mais ça n'est pas non plus totalement rare. Et à l'époque de Hildegarde, il y a des contemporains et contemporaines, parce que ce n'est pas un don spécialement féminin, qui ont des visions. La question ensuite, c'est de savoir si elles vont être toutes acceptées, acceptables, ou si ces visions sont suspectes. Mais le phénomène visionnaire en soi ne naît pas avec elle et n'est pas propre aux femmes.
Elle naît dans un coin de l'Europe qui est entre les villes de Mayence et de Cologne à peu près, donc dans la vallée du Rhin.
Léo Henry, romancier.
Ce qui m'a intéressé dans le travail sur Hildegarde, donc le livre, c'est de reconstruire autour de Hildegarde son environnement, de reconstruire le monde tel qu'elle le perçoit, donc le monde dans sa lecture ou dans sa vision à travers le prisme de la Bible. À quoi ressemble cet univers? Qu'est-ce qu'on y vit? Comment est-ce qu'on y est? Et c'est aussi une question, pour le coup, qui me paraît utile à aborder avec les outils plutôt de là d'où je viens, donc qui sont les outils des mauvais genres et de la fantaisie. C'est-à-dire que c'est ça qu'on fait quand on crée des récits de fantaisie, c'est on crée un univers. Et donc c'est à ça que je me suis raccroché pour essayer d'y être, en fait. Donc c'est effectivement un Moyen-Âge qui est physique. Il y a des cailloux, et il y a du ciel, et il y a des bêtes, et il y a des êtres humains. Je suis parti à 2 reprises sur les terres de Hildegarde. Pour moi, c'était important, en fait, à un moment, et assez tôt d'ailleurs dans le travail, d'aller voir à quoi ça ressemble, donc ce qui reste, ce qui change. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le site où se trouve l'ancienne abbaye, donc l'abbaye historique, parce que c'est devenu une zone d'activité commerciale. Et donc, quand on y allait, il y avait un salon de bronzage et un réparateur d'ordinateurs. On était tout de suite plongés dans le Moyen-Âge à cet endroit-là. Et en même temps, c'était intéressant d'y être parce que ça me donnait à voir vraiment la géographie de cet endroit, en fait, et le fait qu'il y avait une pente et le fait qu'on voyait le Rhin. C'est aussi un endroit extrêmement touristique à cause de Hildegarde, mais on est vraiment, vraiment pas loin de là où il y a la Lorelei. Donc, il y a aussi toute cette mythologie rhénane qui s'est créée bien des siècles après Hildegarde. Et donc, il y a cette espèce de petit château néoclassique. Et il y a un côté kitsch. C'est vraiment à la vallée du Rhin comme on l'imagine faire sa croisière quand on sera retraité.
Le Rhin est produit par l'élan de la mer, c'est pourquoi il est clair. Il coule sur un sol sablonneux, dont le sable est léger et tempéré, si bien qu'on y trouve des plantes. Et parce qu'il est sorti de l'élan de la mer, il est parfois âpre comme une lessive. Son eau, si on la prend sans la faire cuire, dissipe chez l'homme les humeurs nocives et livides. Quant aux viandes que l'on fait cuire en l'utilisant, elle les rend noires et les fait gonfler, parce qu'elle est âpre. Quant aux poissons fraîchement pêchés dans ce fleuve, ils sont bons à manger. Mais si on les laisse attendre, ils pourrissent rapidement car ils sont altérés par cette âpreté.
Le Rhin est effectivement un axe de circulation à tout point de vue, circulation des biens, circulation des hommes, et que Hildegarde soit née et grandie et vécue tout près de ce fleuve puis d'un de ses affluents, évidemment, joue un rôle très important. Quand elle décide de créer son propre monastère, elle se rapproche de Bingen, qui est un centre justement extrêmement animé, et les villes qui sont importantes dans sa vie, Mayence, Cologne, tout cela, on est toujours au bord de ce fameux Rhin qui fait circuler donc les hommes, les idées, les biens de manière si intense. Ça joue un grand rôle dans sa vie, le Rhin. De toute façon, elle consacre de belles lignes aux eaux du Rhin, aux eaux des affluents du Rhin. C'est un élément de sa vie.
Alors, le contexte dans lequel naît Hildegarde à l'extrême fin du XIe siècle...
Geneviève Bureur-Thierry, historienne médiéviste.
C'est un contexte de grandes difficultés géopolitiques, en particulier pour l'Empire germanique, hein, puisque elle est issue d'une famille noble du Palatinat, probablement de la moyenne aristocratie. Et les temps sont extrêmement difficiles en cette fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, puisqu'on est dans un moment de grande crise aiguë entre le pape et l'empereur. Depuis 1075, le pape cherche à prendre le contrôle, je dirais, de l'ensemble de la chrétienté, ce que nous appelons la réforme grégorienne, du nom de ce pape Grégoire VII. Et la conséquence immédiate, en tout cas pour les gens qui vivent dans cet empire germanique, c'est une lutte qu'on peut dire presque à mort entre le pape et l'empereur. Donc, le pape excommunie l'empereur. L'empereur cherche à déposer le pape et à fabriquer d'autres papes. Donc nous avons un empereur et en général plusieurs papes, dont certains sont considérés comme des antipapes, des papes non légitimes. Et puis nous avons aussi parfois plusieurs empereurs, dont un qui a été, disons, légitimé par le pape et l'autre excommunié par le pape. Ce qui donne lieu évidemment à des clans, à une fracture très profonde dans la société et qui touche aussi à la manière dont on se représente l'ordre du monde. Puisque toute cette conception qui fait que l'empereur, tout comme le pape, doivent collaborer à guider la chrétienté vers son salut, si le pape et l'empereur ne s'entendent pas, s'il y a 36 papes et 36 empereurs, pour les chrétiens, c'est terrible. À qui faire confiance ? En fait, toute la vie d'Hildegarde est imprégnée par cette lutte qu'on appelle couramment la lutte entre le sacerdoce et l'empire, c'est-à-dire entre la papauté et l'empire, qui, selon des modalités différentes, cherche chacune à se présenter comme le leader de la chrétienté. Et c'est évidemment très difficile, en particulier pour les membres de l'aristocratie, qui doivent choisir leur camp.
Donc il y a tout cela qui effectivement traverse l'époque de Hildegarde. Et puis par ailleurs, il y a une grande soif de spiritualité qui anime ses contemporains, qui sont mécontents pour beaucoup de l'état de l'Église, de l'indignité des prêtres, de l'invalidité de la formation de certains. Et ça prend toutes sortes de formes, ces aspirations religieuses qui traversent les populations. Des prédicateurs itinérants vont avoir un grand succès. Et dans le cas des femmes en particulier, bon, le problème ne se posera pas exactement dans les mêmes termes que pour les hommes. Les femmes ne peuvent pas errer seules en bande indéfiniment. Certaines ne se satisfont plus des ordres traditionnels ou n'ont pas non plus les moyens d'y entrer, puisqu'il faut quand même apporter quelque chose au monastère. Voilà, donc elle naît dans ce contexte-là. Et elle-même, de toute façon, est assez représentative aussi d'une recherche de voie qu'elle trouve. Mais voilà, ce n'est pas une voie qui est donnée d'emblée. Elle l'élabore.
Alors, pour arriver à l'abbaye d'Hildegarde, il faut qu'on traverse le Rhin par le Bac. On arrive à la petite ville d'Aibingen, avec des maisons typiquement allemandes, comme des maisons un petit peu de dessin d'enfant, très simples, très cubiques, avec des couleurs un peu jaune pastel, ocre, rouge, bleu ciel. Elles sont toutes en bas. Alors, je crois que c'est de l'autre côté du Rhin, vers les collines. Il y a deux collines encaissées comme ça, et je crois que c'est par là que se trouvait le Dizzy Bodenberg, le tout premier monastère d'Hildegarde, celui où elle est entrée quand elle avait 8 ans. Et il reste des ruines par là-bas.
On va vers l'église. On traverse le couloir tout en restant à l'intérieur du monastère.
Mère Abbesse. Je vous appelle Katharina ou Mère Abbesse ?
Schwester Katharina.
J'ai été élue en tant qu'abbesse à l'époque quand on disait mère, mais nous l'avons changée en sœur. Je suis la responsable pour les sœurs. Nous sommes 36 sœurs et je suis la garante des traditions de la maison.
Qu'est-ce que vous êtes venue chercher ici particulièrement ? Dans cette abbaye, qu'est-ce que cette communauté a de différent de toutes les autres communautés ?
Nous, les Bénédictines, nous sommes comme les autres communautés bénédictines. Bien sûr, ici, nous gérons l'héritage de Sainte Hildegarde et nous incarnons ces traditions depuis 900 ans. Et c'est un héritage que nous gérons avec plaisir. Nos racines, ce sont les abbayes Ruppersberg et Aibingen, toutes les deux détruites. Au début du siècle, l'abbaye a été reconstruite et nous nous considérons comme les héritières directes de Sainte
Hildegarde. Qu'est-ce qu'elle représente, Hildegarde, pour vous ? Certes, c'est la sainte, mais en tant que femme, qu'est-ce qu'elle représente ?
Pour moi, Hildegarde a une importance et une force de conviction dans sa vie et son parcours. Elle était très courageuse et choisissant son chemin. Et elle raconte dans ses textes combien elle a souffert quand elle était petite, parce qu'elle a vu des choses que les autres n'ont pas pu voir. Elle s'est retrouvée isolée parce qu'elle ne pouvait plus parler et révéler ses visions. Elle était une femme fragile physiquement, souvent malade. Elle se voyait faible. C'est aussi dans sa faiblesse qu'elle a puisé sa force. Dieu lui a donné de l'espoir et du courage.
Ihre Hoffnung und ihre Kraft eigentlich immer wieder von Gott her bezogen hat.
Vois donc le joli petit veau qui est dans cette vache. Il est blanc avec des taches au front, aux pieds et au dos. Dans la 8e année de mon âge, j'ai été offerte à Dieu en offrande spirituelle jusqu'à ma 15e année. J'ai vu beaucoup de choses, et je les disais parfois en toute simplicité, si bien que ceux qui m'entendaient se demandaient d'où cela venait et ce qu'il en était. Et moi-même, je m'en étonnais, parce que ce que j'ai vu dans mon âme, j'en avais même la vision extérieure. Et comme je voyais que cela n'arrivait à personne d'autre, j'ai caché autant que j'ai pu la vision que j'avais dans mon âme. J'ai ignoré beaucoup de choses de la vie extérieure, car j'ai été souvent malade, depuis le temps où ma mère m'allaitait et plus tard, ce qui nuisit à mon développement et m'empêcha de prendre des forces.
L'hagiographe, qui a en tête d'écrire une vie entièrement édifiante de son héroïne, c'est dès l'enfance que cela commence.
Laurence Mouligny.
Et il prête à Hildegarde une vision, elle aurait vu une vache grosse et discerné le veau dans le ventre de sa mère. Donc les parents décident d'offrir la petite Hildegarde à Dieu et se rendent pour cela à un monastère voisin et renommé qui s'appelle le Disibodenberg, donc en français on traduit souvent par Mont Saint-Disibode. Saint-Disibode, donc, qui donne son nom au monastère, était un saint irlandais, un de ces missionnaires qui furent nombreux au Moyen-Âge, dont elle écrira plus tard la vie, sur commande des abbés du monastère. La vie d'un monastère bénédictin est réglée de longue date par un texte qui s'appelle « La règle de Saint-Benoît » qui envisage dans tous ses détails la vie quotidienne de moines. Hein. Il faut quand même peut-être souligner que ça a été écrit pour des hommes. Donc, ce qui concerne la nourriture, le soin des malades, le rythme des prières, etc., etc. Tout cela est réglé. C'est un monachisme tempéré, le monachisme bénédictin, et c'est pour ça qu'il s'est imposé en Occident, par rapport à d'autres formes de monachisme beaucoup plus exigeants, beaucoup plus héroïques, avec des prouesses physiques, des ascèses, proches du martyr volontaire, comme le monachisme irlandais. Et c'est parce qu'il est tempéré, humain, que le monachisme bénédictin va finir par se diffuser, s'imposer, être imposé aussi à l'époque carolingienne.
Une partie des historiens, et surtout des historiennes, croient qu'elle a été mise au monastère par ses parents parce qu'elle était étrange.
Geneviève Bureur-Thierry.
Que déjà elle parlait de ses visions, qu'elle était comme possédée et qu'ils ont voulu la mettre à l'abri. Ce qui fait qu'effectivement, elle n'a pas eu le choix, mais comme c'était souvent le cas, hein, c'est une forme d'oblation qu'on connaît très classiquement, en particulier chez les bénédictins traditionnels, qui acceptent les enfants dès lors qu'ils ont l'âge de raison, c'est-à-dire vers 7-8 ans. Hein. Elle n'a pas eu le choix, mais comme les femmes du XIIe siècle n'ont pas le choix, aucune n'a le choix, en réalité. L'histoire de l'oblation, c'est-à-dire le sacrifice qu'on fait de son enfant, comme les parents d'Hildegarde ont fait de leur petite fille, peut avoir plusieurs sens. Il est clair que le premier sens est quand même un sens éminemment religieux, c'est-à-dire que on offre à Dieu ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire ses enfants. C'est un signe de grande vénération, de grande affection, que de rendre à Dieu ce qu'il nous a donné. C'est-à-dire nos enfants. Pour les garçons, c'est souvent une manière d'assurer des carrières ecclésiastiques qui sont de très belles carrières, souvent de plus intéressantes carrières que de rester dans le siècle. D'une certaine manière, pour les filles aussi, puisque les abbesses sont quand même des personnages extrêmement importants. être au monastère protège de beaucoup de choses. Protège des difficultés de la vie des femmes mariées, et en particulier d'avoir enfant sur enfant. Je rappelle que le taux de mortalité des femmes en couche est extrêmement élevé. On connaît énormément de femmes de l'aristocratie qui sont mortes dans ces conditions, et pourtant elles s'étaient bien soignées, etc. Mais voilà, tout le monde sait qu'encore aujourd'hui, hein, accoucher n'est pas quelque chose de si évident qu'on le croit. Et dans ces conditions, on peut bien imaginer aussi que des jeunes filles étaient extrêmement heureuses d'être au monastère, et d'être finalement protégée de cette vie de femme. Voilà, on peut connaître les joies de la maternité, mais on peut aussi mourir.
Non, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Si les garçons veulent pas jouer avec nous, ils jouent au Moyen-Âge à la console, mais nous, on veut y jouer pour de vrai.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jouer pour de vrai au Moyen-Âge?
Si on a bien compris, on est des princesses, mais on n'a aucun pouvoir. Alors on se fait tout le temps kidnapper par des chevaliers et revendre à d'autres chevaliers, et c'est eux qui décident.
Ou alors le mieux, c'est qu'on soit des sorcières qui se font chasser par des prêtres parce qu'on est des sortes de diablesses maléfiques.
Non, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Hein? Bon, alors ça vous dit de vous asseoir?
Toutes les jeunes filles de l'époque d'Hildegarde ne vont pas forcément au couvent pour être éduquées. Beaucoup sont éduquées dans leur famille, à commencer par exemple par Héloïse, qui n'a jamais été au couvent, qui est pourtant extrêmement savante et qui avait des professeurs à domicile, dont le fameux Abélard. Si on met les filles au couvent, c'est plus sûr, puisque au couvent, on est sûr qu'elles seront entourées de femmes et elles seront élevées par les femmes. Il est certain que tant que ne se sont pas développées les écoles qui existent surtout donc dans les villes à partir du XIIe siècle, toute la culture qu'on peut transmettre se trouve dans les monastères. D'abord parce que c'est là que se trouvent les bibliothèques, les manuscrits, puisqu'une des tâches des moines et des moniales, c'est de recopier des textes. Je veux dire, on ne connaîtrait ni Sénèque, ni Cicéron, ni rien de tout ça, ni César, s'ils n'avaient pas été recopiés par les hommes et les femmes du Moyen-Âge. Et il est certain que, à la fois pour mettre les filles à l'abri de mauvaises rencontres, à l'abri d'être enlevées aussi, hein, il y a énormément, jusqu'au XIIe siècle, d'histoires de filles raptées par des prétendants, puisque en réalité, on est dans une société qui est très largement tentée par ce qu'on appelle l'hypergamie, c'est-à-dire que les chevaliers qui n'ont pas beaucoup de ressources sont tentés de chercher des bons partis, c'est-à-dire des filles de l'aristocratie qui sont des héritières, parce qu'elles n'ont pas de frères. Et à ce moment-là, le chevalier sans ressources, s'il arrive à enlever une de ses filles de l'aristocratie, il y en a qui s'en privent pas, eh bien, il va évidemment pouvoir, même s'il n'en est pas officiellement le détenteur, gérer les biens, le château, etc. Donc, il y a plein de raisons de mettre ses filles au monastère, parce que les monastères sont quand même des endroits très très bien gardés.
Il n'y a pas beaucoup de lumière, mais ça vous donne l'ambiance de notre cloître qui a été reconstruit en 1900.
Katharina, mère abbesse.
En 1904, les premières sœurs ont emménagé dans cette église encore en travaux. Les peintures sont réalisées dans le style Beuron. Il y a aussi le Christ, et à côté, on peut voir plusieurs scènes de la vie
d'Hildegard.
En face de nous, on a une, deux, trois, quatre, cinq ogives, avec à l'intérieur de chaque ogive, une fresque qui raconte la vie d'Hildegard. Hildegard, petite fille, Hildegard qui part avec ses sœurs vers la construction de l'abbaye, donc qui quitte le couvent de Saint-Isibold pour aller construire l'abbaye, puis après Hildegard qui va discuter avec Barberousse dans la troisième fresque. La quatrième fresque, je pense que c'est la mort d'Hildegard. Mais si on s'arrête sur la première fresque, Hildegard petite fille est donnée à Yuta, au couvent Saint-Disibod. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première image ?
Cette image montre comment Hildegard part avec Yuta au Disibodenberg. Elle avait 14 ans. En est en 1112. Elle a l'air beaucoup plus jeune et pendant longtemps, on a pensé qu'elle avait 8 ans alors qu'elle avait 14 ans quand elle est rentrée au couvent d'Isibodenberg pour vivre avec Yuta dans une communauté de femmes. Et Yuta était la magistra.
Dans cette image, Hildegard est une toute jeune fille quand elle rentre au couvent. Certains disent qu'elle a 8 ans, d'autres qu'elle a 14 ans. Vous, vous aviez quel âge, Katharina, quand vous êtes rentrée dans les ordres ?
J'avais 21 ans. Mes parents étaient tristes au début, mais rapidement ils se sont habitués et aujourd'hui toute ma famille aime venir ici.
Yuta, c'est l'image d'une femme qui est sévère avec elle-même, qui est sévère avec son corps. Quelle image vous avez de Yuta ?
Also Yuta war sicher eine sehr gebildete Frau.
Yuta était une femme très instruite et très sollicitée en tant que conseillère. Contrairement à Hildegard, Yuta était très stricte dans l'ascèse. Après la mort de Yuta, Hildegard a pris la direction de la communauté et elle s'est libérée de l'ascèse et de l'autoflagellation pour apprécier la beauté du monde.
Hildegard vit son quotidien de bénédictine et de recluse au couvent. De ses 8 à ses 42 ans, elle est cloîtrée au monastère du Disibodenberg avec ses sœurs. Elle doit son éducation à sa nouvelle mère, Yuta de Sponheim, et à tous les livres de la bibliothèque du monastère. Elle se plonge dans les manuscrits de botanique et les bestiaires médiévaux. Elle dévore la Bible, l'œuvre scientifique de Pline et la philosophie d'Aristote. Dans le silence de sa cellule, des psalmodies résonnent dans sa tête. Elle compose des louanges, des antiennes, des poèmes, des musiques aériennes et cosmiques. On ne sait pas grand-chose de la vie d'Hildegard pendant ses années de réclusion, mais à la mort de Yuta, tout va s'accélérer. Hildegard va prendre sa place et devenir la nouvelle magistra. Elle a déjà 42 ans, sa santé est fragile, elle est toujours hantée par ses visions et elle pense à sa nouvelle vie dehors et à préparer sa sortie. Elle ne sait pas qu'elle va vivre 40 ans de plus pour accomplir son destin.
Yuta, Yuta.
Sur Yuta von Sponheim, en fait, Dame Yuta, la recluse, on est fort bien renseigné depuis une trentaine d'années. Yuta est qualifiée de magistra, maîtresse, et ce sera d'ailleurs le titre de Hildegard le plus souvent. Elle n'est que très rarement appelée Abbatissa. Ça veut dire qu'elle dirige ce petit ensemble de femmes qui se sont recluses ensemble. Alors, sur Yuta, donc on sait que c'est quelqu'un qui a refusé le mariage, elle a voulu partir en pèlerinage, mais la famille s'y opposait, et donc la reclusion, comme voyage intérieur, on va dire, a été admise. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est extrêmement portée à l'ascèse la plus extrême, et qu'elle macère, mortifie son corps, s'inflige de mauvais traitements, elle meurt fort jeune, et il n'est pas exclu qu'elle meure aussi de ces mauvais traitements infligés à son corps. Et ça va susciter de la vie générale, une réaction contraire de la part de Hildegard, qui certes aura aimé Yuta à sa façon, et c'est probable, mais qui aura été horrifiée par le mauvais traitement infligé à son corps par Yuta, alors que Hildegard a en haute estime le corps humain. Elle y voit une merveille. Et dans la correspondance qu'elle entretient avec un certain nombre de personnages plus ou moins connus, elle met en garde tel ou tel contre justement les mauvais traitements excessifs qu'ils infligent à leur corps au nom d'une ascèse qui mènerait à Dieu, et elle leur rappelle qu'il faut respecter le corps.
Dans le film de Margaret von Trotta, il y a une séquence où Hildegard se retrouve avec le corps de Yuta et elle la déshabille pour l'inhumer et elle lui enlève sa chemise de nuit en réalité et elle y découvre le cilice, cette ceinture de fer clouée avec des petits picots qui rentrent dans la chair et à ce moment-là, Hildegard, encore jeune fille, et effrayée. Et à partir de là, elle va interdire le châtiment corporel.
Hildegarde s'est prononcée à plusieurs reprises contre les pénitences ou les châtiments auto-infligés. Et c'est peut-être dû au fait que Jutta utilisait donc le cilice, qui est cet outil de torture utilisé pour avoir une douleur continue. On peut voir quelque chose d'assez cohérent sur le rapport au corps et à la foi, en fait. C'est pas la peine de se faire souffrir, en fait. C'est pas nécessairement ça qui fait plaisir à Dieu, quoi.
Pour revenir au film Margaret Van Trotta, il y a cette image au début de Jutta. On voit bien que quand Hildegarde la prépare pour son cercueil et qu'elle ouvre ses vêtements, elle découvre Jutta décharnée. Enfin, elle est traumatisée par la violence.
Totalement traumatisée. Et déjà, en tant qu'enfant, elle observe comme elle se flagelle la nuit.
Margaret Van Trotta, cinéaste.
Elle observe ça, même elle ne parle pas avec elle, mais elle, ça la choque totalement. Et après aussi, avec sa ceinture de cruauté, elle est tellement choquée qu'elle dit, pour moi, je ne veux pas voir ça. Elle a interdit vraiment dans son monastère la flagellation et toutes ces cruautés, non ? Elle disait que Dieu nous a donné notre corps pour le conserver et pas pour le faire souffrir. Je ne suis pas très religieuse. Pour moi, ce n'était même pas tellement la religion pourquoi je voulais faire Hildegarde. C'était une femme conditionnée par son temps dans laquelle elle vit et comment elle a su se servir de la foi pour créer sa propre personnalité. Elle était pour moi une femme moderne sans le savoir dans son temps. Elle ne pouvait pas savoir parce que tout était dans le christianisme et elle, bien sûr, elle a cru que cette lumière qu'elle voyait, elle venait de Dieu, et c'est Dieu qui lui donnait des messages. Bien sûr, à cette époque, personne n'a pu penser au-delà de la croyance, au-delà du christianisme, non ? Et ça, j'ai trouvé très intéressant. Comment une femme de cette époque-là a pu devenir ce qu'elle voulait intérieurement devenir, mais en utilisant la religion.
Der Neid ist hässlich und unförmig.
Au moment où Jutta quitte cette terre, Hildegarde prend son essor en quelque sorte. Il y a quand même quelque chose comme ça, une place prise par la vie spirituelle, une figure d'autorité certes, une figure d'éducatrice pour elle, mais soudain, ça parle, ça écrit, ça bouge, des choses se passent, il y a de la lumière, et ça correspond au fait que Jutta n'est plus là.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
Allen Menschen bringt er nur Böses.
Die Liebe dagegen ist die große von Gott geschenkte Kraft.
Die Liebe dagegen ist die große von Gott geschenkte Kraft.
Ô vénérable Père Bernard, admirablement comblé d'honneur par la vertu divine, combien la sottise insolente de ce monde doit te craindre lorsque, sous l'étendard de la Sainte Croix, tu entraînes les hommes à combattre au sein des armées chrétiennes contre la cruauté des païens. Je te prie, au nom du Dieu vivant, d'écouter ma requête. Je suis en grand souci, Père, sur une vision que je n'ai nullement vue avec les yeux de la chair, mais qui m'est apparue dans le mystère de l'esprit. Moi, misérable et plus que misérable dans ma condition de femme, j'ai vu dès mon plus jeune âge de grandes merveilles que ma langue ne saurait rapporter si l'Esprit de Dieu ne m'avait enseigné à le croire. J'arrive en effet à comprendre de l'intérieur la signification des psaumes, des évangiles et des autres textes grâce à cette vision qui brûle mon cœur et mon âme comme une flamme et qui m'explique en profondeur leur sens. Et pourtant, la vision ne m'instruit pas sur eux en langue allemande, dont je ne possède pas une profonde connaissance formelle. Ma lecture est simple, ce n'est pas une analyse détaillée du texte. Dis-moi quel est ton sentiment à ce sujet, car je suis un être inculte. Je n'ai reçu aucun enseignement sur une matière extérieure, mais à l'intérieur de mon âme, je suis savante. C'est pourquoi j'hésite à parler. Je n'ai osé parler de cela à personne, hormis à un moine dont j'ai pu vérifier la vie exemplaire en le fréquentant. Je lui ai révélé tous mes secrets et il m'a apporté une véritable consolation en les jugeant grands et redoutables. Père bon, doux et bienveillant, je m'en remets à ton âme pour que tu me révèles dans ta réponse si tu désires que je parle de ces choses ouvertement ou que je garde le silence. Car cette vision me cause bien des tourments. À quel point dois-je parler de ce que j'ai vu et entendu ? mais à présent, en me levant, je cours vers toi et je te dis, tu es aussi l'aigle qui regarde le soleil. »
Frère Bernard, dit abbé de Clairvaux, à sa chère fille en Christ, Hildegarde, si la prière d'un pécheur a quelque pouvoir. Le fait que tu juges notre petitesse bien autrement que nous la jugeons en notre conscience est à mettre, selon nous, au compte de ta seule humilité. Je ne me suis pourtant pas dérobé pour répondre à ta lettre de dilection, bien que la multitude des devoirs qui m'incombent m'oblige à le faire plus brièvement que je n'aurais voulu. Nous nous félicitons de la grâce divine qui est en toi. Nous t'exhortons et te prions donc de la considérer comme une grâce et de t'efforcer d'y répondre avec un sentiment de totale humilité et de totale dévotion, sachant que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Au reste, en ce qui nous concerne, comment pourrions-nous instruire et mettre en garde là où existe un savoir intérieur et une onction qui instruit de tout ? Nous te demandons plutôt et te supplions instamment de te souvenir de nous auprès de Dieu, ainsi que de tous ceux qui nous sont unis en communauté spirituelle dans le Seigneur.
Nous conservons un échange, c'est constitué d'une lettre et d'une réponse entre Bernard de Clairvaux, donc le grand abbé cistercien, et Hildegarde. Hildegarde s'ouvre à lui de ce qu'elle voit et a l'air de lui demander une sorte d'autorisation. Elle lui explique les choses qu'elle voit, elle lui dit qu'il est un aigle qui regarde le soleil, elle a cette métaphore animale comme elle adore, comme souvent quand elle s'adresse à toutes sortes de personnages masculins. Bernard répond assez vite, hein, il faut quand même l'admettre, en lui disant qu'il est assez occupé. C'est vrai que Bernard est important puisqu'il est ami du pape Eugène III qui va autoriser Hildegarde. Bernard de Clairvaux à l'époque, c'est une sorte de star de l'Église, un homme connu pour son verbe, son haut degré de spiritualité, ses talents oratoires, et donc il est abbé, et c'est un abbé qui sort de son monastère, justement, comme Hildegarde, et c'est lui qui est chargé de prêcher notamment la seconde croisade à Vézelay, pour les talents oratoires et l'orthodoxie absolue qu'on lui reconnaît. Donc c'est quelqu'un qui est très en vue, c'est évident. Une des personnalités les plus marquantes du XIIe siècle, assurément. Ces lettres sont précieuses, effectivement, aux yeux de qui les reçoit. On compose du vivant de Bernard un livre de ces lettres, c'est-à-dire qu'on a en vue une publication. Et ce qui est amusant, c'est que ça va être à peu près la même chose pour la camarade Hildegarde. On se met à constituer un livre de ces lettres de son vivant.
Hildegarde.
Hildegarde, en tant que bénédictine, a tout posé par écrit. Et beaucoup d'endroits de son œuvre en témoignent. Par exemple, ses textes sur la sagesse de la vie. Elle a beaucoup étudié les Écritures saintes qui font partie de la vie bénédictine.
Là, on se lève, sœur Katharina, et là, vous m'ouvrez un énorme livre qui est donc le Scivias. Le Scivias, c'est le livre des visions d'Hildegarde, Sache les voies. Et donc ce livre, c'est un très bel objet dans un écrin en velours bleu.
Das Buch Scivias, Wisse die Wege, ist das erste der Visionswerke.
Le livre Scivias, Sache les voies, est le premier des œuvres de vision de Sainte Hildegarde.
Aber dann auf dem Ruppertsberg.
Ce livre a vu le jour sur le Dispodenberg et a été terminé sur le Ruppertsberg.
Oder die illuminierte Handschrift, die es vom Ruppertsberg noch gab.
Le manuscrit enluminé et original du Ruppertsberg a malheureusement disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Die Mitschwestern haben hier 1933
En 1933, les sœurs ont retranscrit cette œuvre de Sainte Hildegarde. Mais en l'ouvrant, on a vraiment l'impression que c'est l'original.
Dans le Scivias qu'on a en face de nous, Sache les voies, elle commence par révéler ses visions et elle dit « Voilà ce que j'ai vu ». Est-ce que vous pensez aussi que cette manière de raconter ses visions, c'est aussi une manière d'exprimer ses idées?
Ja und nein. Das neue ist ihre Visionswelt, dass sie mit ihren Bildern, die
oui
so wirklich
non.
einzigartig sind.
Ce qui est nouveau, ce sont ses visions imagées, son monde visionnaire unique qui met l'accent sur les Écritures saintes et qui les rend accessibles à tous.
Die Kirche
Elle a réactualisé les Écritures au XIIe siècle pour aider les hommes à retrouver le chemin du salut. Dans le Scivias et dans d'autres textes, elle considère que l'homme est grand et elle écrit « L'homme est la créature parfaite de Dieu ».
Voici qu'en la 43e année de ma course temporelle, comme toute saisie de crainte, esclave de ma volonté hésitante, je tenais mes regards attachés à une céleste vision, je vis une grande splendeur. Et dans cette splendeur, une voix qui venait du ciel me dit « Ô femme fragile, cendre de cendre, corruption de la corruption, dis et écris ce que tu vois et entends. Mais parce que tu es timide dans le langage, inhabile dans l'exposition, ignorante de la manière d'écrire ces choses, dis-les, écris-les, d'après ce que tu vois et entends dans les splendeurs célestes, dans les merveilles de Dieu, en le proférant pour le faire entendre, comme l'auditeur qui perçoit les paroles de son maître les répète, selon l'accent de son langage, parce que lui-même le veut, le montre et l'enseigne. » Ainsi, toi-même, dis ce que tu vois et entends, et écris-le d'après la volonté de celui qui sait, voit et dispose toutes choses dans le secret de ses mystères. Et de nouveau, j'entendis une voix du ciel qui me disait « Raconte donc ces merveilles, écris ces choses ainsi apprises, et dis « En l'année 1141 de l'incarnation du Fils de Dieu Jésus-Christ, à l'âge de 42 ans 7 mois, une lumière de flamme d'un merveilleux éclat, venant du ciel entrouvert, pénétra mon cerveau, mon cœur et ma poitrine, comme une flamme qui ne brûle pas mais échauffe, à la manière du soleil qui darde ses rayons sur la terre. Et soudain, je savourai l'intelligence de l'exposition des livres des psaumes. Mais dès mon enfance, dès l'âge de 5 ans, je sentais en moi, comme maintenant, la vertu des mystères, des secrètes et merveilleuses visions. Et cependant, je ne le manifestais à aucun homme, excepté à quelques rares religieux qui vivaient assujettis à la même règle que moi. Car, jusqu'au temps où Dieu voulut, par sa grâce, que ces visions fussent découvertes, je me cachais dans le silence. Mais les visions que je vis, ce ne fut pas en songe, ni dans le sommeil, ni dans une espèce de frénésie. Je ne les vis pas des yeux charnels, je ne les entendis pas des oreilles extérieures de l'homme et dans des lieux cachés. Mais je les contemplais, selon la volonté de Dieu, en pleine veille, à découvert, les considérant dans toute la clarté de l'esprit des yeux et des oreilles de l'homme intérieur. Comment cela se fit ? J'entendis une voix du ciel qui disait « Je suis la lumière vivante qui éclaire les ténèbres. J'ai établi qui j'ai voulu. Je l'ai élevé merveilleusement, comme il m'a plu, dans les prodiges, au-dessus des anciens personnages qui apprirent de moi beaucoup de choses mystérieuses. Mais je l'ai terrassé, pour qu'il ne s'élevât pas dans l'exaltation de son esprit. Toi donc qui reçois ces choses mystérieuses, écris ce que tu vois et entends. »
C'est impressionnant quand on arrive par le bas en fait du village parce que on serpente sur des petits chemins et on la regarde d'en bas, on la voit surgir énorme et puis quand on arrive face à elle, on voit ces deux tours, deux clochers en parallèle et le portail, un portail assez simple encadré par deux cyprès et puis la sculpture d'Hildegarde, une sculpture moderne où on la voit en drapée avec son voile et elle a comme
un voile de bronze. Elle est complètement enroulée dans un drapé et elle est très fine, petite, jolie. On se dit qu'elle nous accueille. Elle attend les pèlerins, les gens qui viennent ici faire une retraite. Elle nous accueille avec sérieux et un petit sourire en coin aussi. Elle a un tout petit nez. Alors cette sculpture ne ressemble pas du tout à la description que les gens nous font d'Hildegarde dans leur imaginaire. Ils imaginent toujours un peu grande, imposante, une femme forte, une femme puissante. Et là, le sculpteur a décidé d'en faire une femme d'une trentaine d'années, plutôt fragile, douce.
Elle était forte dans sa volonté d'arriver où elle est arrivée à la fin. Mais de l'autre côté, elle était dès l'enfance, souvent malade, donc ça veut dire qu'elle était faible aussi.
Et donc c'est ce qu'on peut appeler une femme valétudinaire, c'est-à-dire qu'elle est en fait un peu tout le temps malade et en même temps en pleine forme. Parce que vivre jusqu'à 81 ans à l'époque, bon, c'est pas non plus gagné à la base.
Hildegarde est une femme forte et en même temps elle est sujette à des maladies. Elle passe l'essentiel de sa vie malade en fait et dans un état de grande faiblesse. C'est une femme qui manifestement est très douce et très tendre et a énormément d'affection. Et en même temps, c'est aussi une femme qui peut être très autoritaire en fait et qui peut être parfaitement inflexible. Elle devait avoir une voix incroyable.
Le caractère d'Hildegarde serait, à mon avis, avec beaucoup d'autorité et d'autorité bienveillante.
Geneviève Burer-Thierry.
Elle est toujours dans cette recherche de la miséricorde divine. Non pas qu'elle se prenne pour Dieu, ce qui serait péché, mais en tant qu'abbesse du monastère, en tant que directrice de conscience, en tant que magistrat, elle a porté ce titre magnifique au féminin de maîtresse. Hein. Il y avait beaucoup de magistères au XIIe siècle. Il y avait très peu de femmes qui ont porté ce titre de magistrat, celles qui exercent un magistère, c'est-à-dire dont l'autorité découle finalement du savoir qu'elles transmettent. Non pas seulement du savoir qu'elles gardent pour elles, mais de la transmission qu'elles en font. Et donc, avec tous ces titres, avec toutes ces responsabilités, parce que je pense que c'est une femme qui a très bien dirigé le monastère qu'elle a elle-même fondé, au Rupertsberg, qui est actuellement donc le monastère de Bingen. À partir de là, c'est une femme qui devait être dotée d'une immense énergie, puisque elle a réussi à la fois à très bien gérer son monastère, à rédiger une œuvre immense, non seulement les visions, mais aussi la musique, etc. Et aussi à s'impliquer dans la vie publique, avec des tournées de prédication qu'elle a faites quand même, elle avait 70 ans. Donc, je pense que c'est une femme qui a été vraiment habitée par cette énergie incroyable.
Parfois, elle se compare à Moïse. Quand elle est venue ici construire son abbaye, avec dans sa suite ses 18 ou 20 sœurs, on ne sait pas vraiment, elle a souvent fait des métaphores en disant qu'elle était comme Moïse pour aller se trouver une terre, une maison.
Hildegarde est un peu l'équivalent de Moïse. Elle diffuse la parole de Dieu. D'après ce que je sais, Hildegarde a eu dans une vision le présage de trouver un nouveau lieu et de quitter le Disibodenberg avec ses sœurs. Et c'est comme ça que le Rupertsberg lui est apparu. C'est la terre où se trouvaient les ossements de Saint Rupert et sa chapelle. Et elle a suivi cette inspiration comme elle l'a fait pendant toute sa vie en écoutant ses vibrations intérieures, même si ça lui a souvent causé bien des problèmes.
Lorsqu'Hildegarde décide de faire sécession, elle a une cinquantaine bien sonnée.
Laurence Molinier.
C'est présenté comme une injonction divine. Et ce que nous savons aussi, c'est que cette décision, cette volonté est mal prise par l'abbé du Disibodenberg, Kuno, donc, qui mesure tout ce qu'il va perdre avec le départ de Hildegarde. Il est conscient d'abriter une personnalité hors du commun, une gloire pour sa communauté, une gloire pour son monastère, et quelque chose d'attractif, voilà, qui lui vaut des visites, des considérations, etc. Donc le départ de cette sœur hors norme, ça ne lui plaît guère. Et du coup, elle se fâche.
À sa façon.
Elle tombe malade. Et elle dira a posteriori que c'est parce que justement elle a résisté à l'ordre divin, résisté à cause de la résistance de Kuno, qu'elle est frappée de maladie. Elle finit par gagner. Et elle part avec 18 femmes de l'autre côté du Rhin, et elle s'émancipe, elle forme une communauté féminine, ça tout cela est vrai, il y a une volonté d'être sans les hommes, c'est évident. Hein. Je ne dirais pas qu'Hildegarde est féministe, mais qu'elle a envie d'être entre femmes, oui, ça semble clair.
Hildegarde, à partir du moment où elle se fait connaître avec son premier livre de vision, c'est-à-dire le Skivias, commence évidemment à être une très grande célébrité et à attirer dans son monastère d'origine, le fameux Disibodenberg, beaucoup de pèlerins. Et qui dit pèlerin, dit offrande. Parce que quand on vient en pèlerinage, quand on vient demander quelque chose, il faut payer. Alors, c'est pas tarifé, hein, y a pas une facture. Mais il est normal, quand on vient demander des soins, des conseils, de passer la nuit dans le sanctuaire, de prier le saint, etc., de déposer quelque chose. Donc, plus il y a de monde qui vient, plus le monastère s'enrichit. C'est une des raisons pour lesquelles, quand Hildegarde veut fonder son propre monastère et quitter le Disibodenberg, l'abbé Kuno se met en travers de sa route et lui dit « Non, 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 pas du tout, tu vas rester là. » Parce que pour lui, c'est une perte incroyable. Hein. Et on voit bien comment la célébrité de Hildegarde lui permet non seulement de créer le premier monastère au Rubensberg, mais même d'en créer un second hein, à la fin de sa vie de l'autre côté du Rhin.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous ai croisé entre la boutique et l'entrée de l'abbaye. Vous êtes tous les deux. Je suppose que vous êtes en couple.
C'est ça, c'est mon mari. Voilà.
Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, à l'abbaye d'Hildegarde ?
Je voulais absolument acheter des petits mélanges d'herbes pour l'anniversaire de mon papa, qui adore Hildegarde de Bingen et les herbes médicinales. On a pu acheter deux petits pots, une petite bouteille de Riesling d'Hildegarde. Donc c'était d'abord un intérêt...
mercantile.
Voilà, mais le spirituel vient maintenant qu'on est devant l'église.
Comment vous la trouvez ?
Imposante. Et c'est comme un monument qui perché au-dessus de la colline qui domine un peu le paysage ici.
Vous vous attendiez à ça, à ce qu'elle soit aussi énorme ?
Pas du tout. Et la couleur est intéressante, elle est un petit peu plus foncée que le reste des bâtisses des environs, donc elle a comme ça quelque chose d'unique. Ouais.
Alors vous avez vu, là, il y a la jolie sculpture d'Hildegarde,
oui.
Belle statue.
Qu'on a vue sur déjà plusieurs dépliants et brochures touristiques avant d'être ici, d'ailleurs.
Elle est assez jolie, hein.
Elle est... Oui, et elle est surprenante de sobriété, je dirais. Hein, elle n'est pas du tout surfaite comme ça.
Elle est petite.
Ouais, toute petite, ouais.
Tout l'endroit ici, c'est une image qu'on fait de Hildegarde après. C'est pas quelque chose de Moyen-Âge ici, ça. On doit toujours se donner l'impression que c'était les gens du 19e siècle, probablement, qui font son image de Hildegarde et du Moyen-Âge. Et ça, c'est dans ce endroit qui est très fort, je pense aussi.
Ouais. Vous pensez qu'elle lui ressemblait, Hildegarde, au 12e siècle ?
Ah, moi, je me la suis jamais imaginée comme ça. Mais bon, après, les images intérieures, hein, c'est...
C'est une figure féminine assez rebelle aussi. Hein.
Oui, oui. Et comment ? Et comment ? Oui, oui. C'est ça qui la rend intéressante. Bien avant d'ailleurs son... Comment dire ça ? Le fait qu'elle ait été déclarée
docteur
de l'Église par, je ne sais plus, c'était peut-être
Benoît XVI.
Voilà. Je me serais trompée. Ah d'accord, là on entre.
Ouais.
Ah oui, incroyable.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle soit peinte. Les églises au Moyen-Âge, et bien sûr, on n'est pas dans l'historique ici, mais dans la reproduction de l'historique, les églises au Moyen-Âge étaient toutes peintes. Et on en a perdu l'impression, puisqu'aujourd'hui, souvent, les fresques se sont perdues. Et on a aujourd'hui souvent l'impression que les églises médiévales, les cathédrales médiévales, étaient une espèce de monuments sobres, marqués par la pierre à nu. Et c'est pas vrai, elles étaient multicolores, elles étaient pleines de couleurs. Et ça, je trouve que c'est incroyable que ce soit le cas ici.
Un énorme Christ Pantocrator en face de nous.
Le Pantocrator, oui, en face de nous, qui domine le cœur. Et la coupole du cœur est dorée, hein, on dirait qu'il y a une couleur comme ça, un petit peu chatoyante. Ouais.
Et là, si vous regardez sur la gauche, il y a toute la vie d'Hildegarde sous chaque arcade.
Ah voilà.
Chaque arcade représente un chapitre de sa vie.
Ah oui, donc la petite fille et ensuite la jeune novice. Incroyable, incroyable.
Celle-là, c'est quand elle soigne, elle fait un miracle, elle soigne un enfant aveugle. Vous connaissez cette histoire?
Oui, ça c'est une des rares histoires d'ailleurs que je connais. Ça me fait beaucoup penser à Sainte Odile, la sainte patronne de l'Alsace, qui est connue aussi pour avoir guéri les aveugles.
Elle est guérisseuse quand même. Ouais. Guérisseuse, prophétesse, visionnaire, musicienne. Elle coche beaucoup de cases, Hildegarde.
Une longue vie, hein. Elle a vécu longtemps pour son époque, c'est rare.
Elle était visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, visionnaire?
Alors, visionnaire, c'est-à-dire qu'elle va au-delà de ce qu'on voit d'habitude.
Pierre Lemarquis, neurologue.
Alors, il y a évidemment ces visions qui sont très imagées, qui ont un petit côté apocalyptique. Hein. Mais en dehors de ça, elle voit au-delà. Disons que dans la littérature religieuse, mystique, les choses sont souvent imagées. On le voit déjà dans l'Évangile, dans l'Apocalypse. Donc, une façon imagée, c'est une façon un peu orientale, mais qu'on avait de raconter des histoires. Et puis, ces visions, elle les explique clairement. Donc, il y a 20%, elle décrit sa vision, puis 80% de son texte, elle explique tout ce qu'elle a vu. Donc, c'est une façon aussi de marquer les esprits. C'est à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient lire, il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Donc une belle image bien puissante, ça reste dans les esprits. C'était l'art de la mémoire tel qu'on le voit notamment dans les églises. Si vous allez visiter une église, vous voyez un peu les vices, les vertus, après vous voyez l'enfer, vous avez peur, vous vous souvenez ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qui est utilisé dans la publicité. Aujourd'hui, une image, ça frappe bien plus qu'un texte.
Alors comment un homme comme vous, un neurologue, Pierre Lemarquis, un homme de science, un homme rationaliste, un homme cartésien, comment vous pouvez croire à l'esprit visionnaire?
Ah ben, c'est simplement un esprit hypersensible, si vous voulez. Si vous avez plein de capteurs sur vous, sensoriels, vous captez une ambiance, obligatoirement, vous allez un petit peu... C'est le principe même de notre cerveau. Notre cerveau est un voyant. Vous captez des informations par vos sens, vous le comparez à ce que vous avez en mémoire, et puis par votre beau lobe frontal, vous essayez d'envisager l'avenir. Donc, elle dit bien que c'est quand même ses yeux, ses oreilles internes qui lui permettent d'arriver à ses visions. C'est pas lié à une drogue, c'est pas lié à un état de conscience modifié. Donc, elle en pleine conscience, qui peut cadrer effectivement avec des auras migraineuses, on le verra tout à l'heure.
C'était Hildegarde de Bingen, premier épisode, une enfance hors norme. Avec Laurence Moulinier, Geneviève Bureur-Thierry, Pierre Lemarquis, Léo Henry et Margaret Van Trotta. Un grand merci à Marion Ennis et Katia Zimmermann pour leur aide précieuse. Les visions, les lettres et les poèmes ont été lus par Marie Constant, Renaud Bertin-Cordoliani et Andrea Schiffer. Merci à toute la communauté des bénédictines de l'abbaye d'Hildegarde pour leur formidable accueil. Documentation musicale, Antoine Villose. Prise de son, Yann Fressy et Martin Troadec. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Christine Bernard. Hildegarde, génie cosmique. Une grande traversée d'Aurélie Sfez, réalisée par Benjamin Hu. À suivre, l'épisode 2, la compositrice visionnaire.